Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons John Kanyunu, il est journaliste, il est correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, au Nord Kivu. Bonjour John Kanyunu.
Tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Bonjour Maître Frédéric Kwamba.
Bonjour Maître Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. Bonjour Madame Anna Sylvestre.
Bonjour Guy, bonjour à tous.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Kanyunu, journaliste. Il est correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, au Nord Kivu. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. Au menu de cette émission, les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont été convoqués lundi 29 janvier au Palais du Peuple à Kinshasa. Situation sécuritaire au Nord Kivu et enfin les contrats sino-congolais renégociés. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la décision que vient de prendre la famille de feu Chérubin Okende. En effet, fatiguée de prolonger le deuil 6 mois après son assassinat, la famille du député national Chérubin Okende vient d'élever l'option de l'enterrer sans contrainte ni procédure quelconque. C'est l'avocat de la famille qui l'a annoncé à la presse jeudi à Kinshasa, à l'issue de l'entretien avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Député, Maître Laurent Onyemba, explique que la famille n'a jamais eu accès au rapport de l'autopsie ni reçu des réponses aux multiples courriers adressés aux autorités du parquet. John Kanyunu, comment vous réagissez au fait que la famille du député Chérubin Okende décide finalement de l'enterrer?
Oui, je pense que c'est une bonne décision, bien que c'est dur parce que Chérubin Okende, c'était un grand homme politique dans ce pays. Et normalement, il ne devrait pas être enterré comme ça, sans que l'on sache de quoi il était mort. Et comme le deuil a trop duré, je pense que c'était une bonne option de la part de la famille de le faire enterrer, bien que cela ne dédouane pas ceux-là qui sont à la base de sa mort. Ils vont enterrer, bien sûr, mais la vérité reste têtue et un jour, elle finira par éclater. C'est dur, bien sûr, mais en tout cas, à mon avis, la famille a trop patienté pour enterrer son bien-aimé. Et je pense que malgré cela, toute la lumière sera faite par rapport à cet assassinat, parce que Nous savons tous qu'il y a des flous autour des faits crimes, mais tôt ou tard, la vérité finira par être mise au fait, j'en suis sûr. Et encore, je présente mes condoléances à cette famille éprouvée et que l'âme de Chéribert Okende repose éternellement à paix.
Merci, Maître Frédéric Kouamba. Après avoir attendu en vain le rapport de l'autopsie, la famille décide de procéder à l'enterrement du député Chérubin Okende. Après cette longue attente, n'est-ce pas qu'il fallait s'attendre à cela, comme vient de le dire John Kanounou?
Bon, on ne s'attendait pas à cela. C'est quelque surprise, parce qu'il y a des évidences. C'est vrai que la famille est fatigué d'attendre la fin des enquêtes qui n'arrivait toujours pas. Et elle a réellement le droit de réclamer la dépouille du défunt, étant liée directement sur le plan biologique. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des principes, que lorsque une infraction vient de se commettre, elle ne trouble pas seulement la situation des victimes directes, mais elle trouble l'ordre social. C'est ça même la raison de l'existence d'un parquet qu'on appelle l'avocat de la société. Et lorsque les parquets déclenchent des enquêtes, comme c'est le cas du cas de l'assassinat de Chéribert Okende, il était normal que l'on ordonne ou qu'on exige de l'autopsie et que les parquets arrivent quand même à bout de ces enquêtes. Et un parquet ne clôture pas ses enquêtes par un entretien avec la famille de la victime. Et surtout, si cette victime, au moment du décès, n'appartient pas totalement à sa famille biologique, mais à toute une famille très élargie, et à tous les Congolais qui avaient aussi le droit de connaître ce qui s'était réellement passé, comme vient de le dire M. John, que la vérité était sûre. Mais quand il a fait déjà devant le parquet ne peut clôturer qu'il soit par l'application de l'affaire devant un juge, lorsqu'elle a réuni tous les éléments, soit par un classement sans suite. Mais vous voyez que ici, il y a un acte du parquet qui est précipité. Je ne sais pas si le parquet s'est rendu compte que la pression de la famille a été plus supérieure que les enquêtes pour aboutir à une décision pareille. Il y a des questions qui restent quand même pendantes. Y a-t-il eu réellement autopsie? C'est une question qui reste pendante pour nous tous. Nous devons savoir si réellement il y a eu autopsie. Et s'il y a eu autopsie, est-ce que le fait d'enterrer n'aura pas d'impact sur la suite des enquêtes ou sur la suite de l'instruction devant les juges? Parce que vous êtes pas ignorés que devant les juges pénal qui est très actif, toutes les questions peuvent être posées sur la reconstitution des faits et le corps pourra être redemandé encore devant les juges. Moi, je trouve que c'est une décision précipitée qui pourrait avoir des conséquences, des difficultés, certaines personnes dans l'avenir, parce que, il y a un principe de droit qui dit que les doutes profitent toujours à l'accusé. Donc, demain, ou après demain, s'il y a des gens qui sont accusés devant les juges, je pense que l'unique moyen qu'ils pourront, soulever, ça sera de dire que non, il fallait que les corps soient là, s'il y a eu autopsie qui les incriminait.
Merci Alain Silvestre. Est-ce qu'on peut dire que l'enterrement du député Chéribert Okende consacre également l'enterrement du dossier Okende?
Écoutez, je pense que quiconque souhaite connaître ce qui s'est réellement passé espère que ce ne sera pas l'enterrement. Non, je suis pas sûre que ça aille de pair. On entend ce que dit la famille et on peut comprendre les raisons qui les poussent à faire ce choix, hein, peut-être une forme de lassitude, voire de désespoir face au manque d'avancée. Mais je crois que sur ce genre d'enquête, et je crois qu'on peut considérer que cette enquête est extrêmement délicate, que cette affaire est extrêmement sensible, hein, on le voit quand on voit l'omerta qui règne autour de l'affaire de la mort de M. Okende, eh bien parfois le temps permet d'en savoir plus. Ça n'est pas parce que aujourd'hui effectivement cela semble difficile et on n'a pas tellement l'impression que les autorités ni judiciaires ni politiques n'aient très envie de faire la lumière sur cette affaire que dans quelques mois, dans quelques années, il n'y aura pas peut-être des gens qui vont parler ou des enquêtes qu'il faut avancer. Je pense que ce qui est c'est ce qu'il faut souhaiter, étant donné qui était M. Okende. C'était évidemment un homme politique de premier plan. Et puis également ses répercussions. J'ai bien sûr une pensée pendant que nous parlons de M. Okende pour notre confrère Stanis Boujakera Chimala, qui est toujours en prison pour un article publié dans Jeune Afrique qu'il n'a pas écrit et signé lui-même, mais qui faisait connaître le rôle des renseignements militaires dans cette affaire. Donc c'est une affaire qui doit continuer à avancer, être instruite. Je crois que c'est une nécessité.
Oui. Est-ce qu'on peut parler des décisions précipitées comme on vient de les qualifier, Maître Frédéric Kouamba?
Écoutez, je pense que les raisons qui poussent la famille, une famille, face au décès d'un de leurs proches, à prendre ce genre de décision, sont des motifs très intimes. C'est difficile pour nous, observateurs. Effectivement, on peut précipiter, comme le dit mon collègue, parce que peut-être qu'attendre aurait permis d'en savoir plus, c'est vrai. Après, peut-être que ses proches ont besoin de faire leur deuil, et on peut entendre cela également.
Merci, on prend une petite pause avec Kinsiona de Franco Luambo Makiadi et on revient tout de suite après. C'était Kinsiona de Franco Luambo Makiadi qui, à travers cette chanson, rendait hommage à son jeune frère Bavon Marie-Marie, mort également dans des conditions atroces. Et une manière pour nous de garder une pensée pieuse pour la mémoire des feux Chérubin Okende. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont été convoqués lundi 29 janvier au Palais du Peuple à Kinshasa. La plénière inaugurale a été présidée par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale conformément à l'article 114 de la Constitution. Cette plénière a procédé à la mise en place du bureau d'âge présidé par Christophe Mosseau, des doyens d'âge, Serge Batti et Agé Matembo, les deux moins âgés. Ils sont respectivement présidents, rapporteurs et questeurs du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Ce bureau aura pour mission de valider les pouvoirs des députés, élaborer et voter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'installer les bureaux définitifs de cette chambre basse. Maître Frédéric Kouamba, membre de la société civile, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup Monsieur Maté. J'avais juste des préoccupations en voyant ce qui s'est passé le premier jour, nous avons vu des images et la première consultation était celle de savoir quand est-ce qu'un parlement le devient, devient parlement. C'est dès sa création par la Constitution. Et puis par après, nous avons sa matérialisation par l'existence des personnes physiques organisées sous pied des textes, comme on a dit les députés. Voilà pourquoi vous parlez même de l'article 144 de la Constitution. Mais ces personnes sont des élus du peuple et ont une obligation de se conformer aux textes pour jouer de cette qualité et crédibiliser même le Parlement. Mais ce que nous avons suivi dans les images est une violation flagrante de la Constitution et spécialement des dispositions des articles 101 alinéa 5 et 108.178 et 9. Parce que la Constitution est très claire lorsqu'elle pose le principe de séparation des pouvoirs. Et vous savez que traditionnellement, des états de droit comme le nôtre a trois pouvoirs. Donc nous avons un pouvoir législatif, nous avons un pouvoir judiciaire et nous avons un pouvoir exécutif, chacun avec son rôle, chacun ayant la possibilité d'arrêter un autre. Et raison pour laquelle ces dispositions que je venais de vous donner empêche à ce que un parlementaire, un député, ne soit au même moment membre d'une autre institution comme le gouvernement. Vous avez vu qu'il y a eu des ministres qui ont siégé ces jours-là, qui continuaient à agir comme ministres, au même moment poser des actes comme ministres et siéger au Parlement. C'est vraiment scandaleux pour un État qui se veut de droit. Voilà pourquoi l'alinéa 5 de l'article 101 refuse aux parlementaires d'exercer un autre mandat impératif, comme celui d'être mandataire de l'État, comme celui d'être ministre. On interdit à tout député d'avoir ce genre de mandat. Et les points 1, 7, 8 et 9 de l'article 118 défend expressément à tout membre du gouvernement ou autre donc mandataire public qui sont dans une incompatibilité absolue. Et au Conseil des ministres, nous avons suivi également que le chef de l'État a rappelé, selon les informations suivies, aux concernés de se mettre en ordre, donc de faire le choix, c'est-à-dire en démissionnant peut-être, ou en se retirant d'un mandat pour exercer l'autre. Alors on se demande, est-ce que dans un état de droit, il revient au chef de l'État de rappeler à ses concitoyens ce qu'ils doivent eux-mêmes faire obligatoirement parce que c'est la loi qui l'exige. Nous disons non. Donc chaque élu devait faire le choix pour le respect quand même du principe sacré de séparation des pouvoirs et de se retirer d'un mandat et exercer un autre. Sinon, il y a empiètement vraiment sur les pouvoirs législatifs par les pouvoirs exécutifs et à ce rythme, cette législature risque d'être la plus scandaleuse comparée à celle passée qui n'a pas été bien cotée. Donc, il faut que tout le monde se rattrape quand même. Nous sommes observateurs et nous voulons quand même que le principe de l'état de droit qui est décrié, qui est voulu, qui est souhaité par tous, commence par une visibilité à travers les dirigeants eux-mêmes. Lorsque les dirigeants décident de se mettre en inconformité avec la Constitution dans ces jeux, nous ne voyons pas un bel avenir de notre Assemblée nationale. C'était l'idée que j'ai voulu partager avec vous.
Merci, John Kanyunyu, journaliste, vous êtes correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, au nord Kivu. Parmi ces missions, les missions de ces bureaux d'âge, il y a la validation des mandats des députés. Et comment ces bureaux pourra-t-il gérer ces dossiers épineux, n'est-ce pas, quand on sait, Maître Frédéric vient de les rappeler, quand on sait que beaucoup de députés élus continuent d'occuper leurs anciennes fonctions, les uns au gouvernement, les autres dans les entreprises publiques.
Oui, Maître Frédéric a complètement raison. Je viens vraiment de le suivre avec attention. Malheureusement, je dois le rappeler que ces élections, tous savons comment elles se sont déroulées. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'élus, bien sûr, il y a eu d'élus et il y a eu aussi des nommés, excuse-moi les termes, mais nous savons tous comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez imaginer, avec toutes les irrégularités que nous avons constatées et qui ont même apparu sur les réseaux sociaux, en tout cas franchement, moi je m'attends vraiment pas à quelque chose de grand. Qui puisse venir de cette Assemblée nationale, parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu élection des sénateurs. Donc moi, franchement, je m'attends vraiment pas de quelque chose de bon qui puisse sortir de cette Assemblée. Parce que moi, je me dis, un homme d'État, je devais avoir honte de siéger dans cette Assemblée, parce que tout le monde sait comment ça s'est passé, et on a vu des machines ça et là, entre les mains des individus, dans des chambres d'hôtel, dans des chambres, dans des résidences privées, et je ne pense pas que certains, je ne dis pas que tous les élus l'ont été malignement, non, je dis ça peut faire quand même la honte à quelqu'un des droits qui puisse siéger dans cette assemblée-là. Alors, quelque chose qui a comme départ biaisé, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ça? Je pense que nous irons des violations en violation des non-lois. Si je peux retourner en arrière, en 2007, après les élections de 2006 organisées par feu M. l'abbé Apollinaire Malou, j'ai vu des députés élus qui étaient ministres, mais qui avaient démissionné. Et je me souviens, j'ai même un grand frère qui était nommé au ministère de l'Éducation, l'EPST. Et parce que il y avait le ministre qui était élu député et qui avait opéré le choix de siéger à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, si nous devons nous plaindre de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, je pense que nous avons la mémoire d'un singe, parce que tout ce qui y a autour de ces élections-là, nous le connaissons tous, et vous comprenez que rien de spécial ne peut sortir de cette chambre. Et aussi, je me dis, bon, bien sûr, c'est un exercice normal, mais ne vous en faites pas à l'allure où vont les choses. Je n'exclus pas qu'il y ait des élus proclamés par la CENI qui risquent de retourner chez eux après le traitement des contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense que le bureau d'âge qui dirige les plénières aujourd'hui et actuellement doit être sage pour essayer un peu de remettre à la raison tous ces mandataires-là qui... jusque-là, n'ont pas encore démissionné de leurs fonctions.
Merci.
Et qui, malheureusement, ont préféré aller siéger pendant qu'ils gardent leurs mains sur différents postes pour les ministres et pour les mandataires au niveau des entreprises publiques.
Merci.
Donc, bref, je pense que l'inquiétude de Maître Frédéric est fondée. Et nous espérons qu'avec la sagesse du bureau d'âge, ils vont tout remettre à l'ordre malgré tout ce que nous avons eu à enregistrer pendant les élections du 20 décembre 2023 passé.
Merci, Madame Anna Tisbesque, journaliste au journal Le Monde. Vous êtes chef du service Afrique. Un autre défi à relever par ces bureaux d'âge, c'est la question de la participation de l'opposition aux travaux, n'est-ce pas, de ces parlements. On sait que jusque-là, l'opposition ne s'est pas encore présentée à l'Assemblée nationale. Or, il sera difficile d'envisager une chambre monocolore, hein, ce qui ne peut pas, n'est-ce pas, arranger le pouvoir en place et qui a besoin de cette opposition pour confirmer que nous sommes effectivement dans une démocratie. Comment vous-même vous entrevoyez la gestion de cette question par ces nouveaux bureaux d'âge?
Merci Guy. Alors je vais peut-être porter une voix un tout petit peu différente que celle de mes deux collègues et d'une certaine façon peut-être me faire l'avocat du diable, mais aussi avec une note d'espoir. Effectivement, un certain nombre d'irrégularités, de vrais problèmes ont été constatés pendant ces élections. Elles ont été pointées par les observateurs, par la SENCO. Néanmoins, ces élections sont maintenant terminées. L'Assemblée est en train de prendre place. Et je pense que peut-être il serait bon de se tourner vers l'avenir, et c'est-à-dire plutôt que dès lors dire qu'il n'y a plus rien à en attendre et que tout cela est foutu, veuillez excuser mon vocabulaire, peut-être être exigeant envers cette Assemblée. Comme vous le disiez, désormais, donc au sein de cette Assemblée, les alliés de Félix Tshisekedi, disons l'UDPS et ses alliés au sens le plus large, sont ultra majoritaires. On a affaire à une assemblée extrêmement différente de celle qui avait pris place en 2019, suite à l'élection de 2018. C'est pas pour ça que ça va durer, on sait que ça peut nous réserver des surprises. Mais donc cela confère, je crois, à la majorité une responsabilité très grande. C'est cela qu'il faut, à mon avis, qu'ils sachent et qu'ils entendent. Il ne s'agit pas d'arriver en position de force pour dire, voilà, ça y est, on a le pouvoir et on est les grands gagnants. Non, avoir le pouvoir, être majoritaire et encore plus dans un contexte d'élections qui ont été contestées, eh bien, c'est une responsabilité à eux, désormais, de faire leur preuve, à eux d'être exemplaires, d'une certaine façon, vis-à-vis des citoyens, et à eux, maintenant, de faire les choses pour la RDC, pour le pays. Donc, je pense que, pour commencer, effectivement, comme vous le disiez, il est nécessaire que l'opposition, bien que minoritaire, ait sa place, prenne sa place dans cette Assemblée, puisse faire entendre sa voix, car dans une démocratie ou dans n'importe quel régime, il n'est pas souhaitable qu'il n'y ait qu'une seule idée, qu'une seule pensée. Et puis, il faut que chacun de ces députés, qu'importe d'une certaine façon les contestations et la façon dont ils sont élus, désormais ils siègent, ce sont les représentants de la nation, et maintenant qu'ils fassent leur preuve, qu'ils fassent la démonstration que les Congolais peuvent compter sur eux. On les jugera sur leurs actes. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Il ne s'agit pas d'avoir un siège à l'Assemblée et ensuite d'en profiter, de profiter de ses privilèges. Ça, non. En revanche, il faut agir et le pays a besoin d'une Assemblée qui vote des lois pour le bien de tous les concitoyens.
Merci. On prend une petite pause avec Elode et Lionel Richie. On revient juste après.
Cause I wonder where you are. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la décision prise par la famille du député Chérubin Okende de pouvoir organiser finalement ses funérailles. Nous avons également analysé la mise en place du bureau d'âge à l'Assemblée nationale et les défis qui attendent ces bureaux. Participe à cette émission, John Kanyunyu, il est journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne de Tuvalu au Nord Kivu. Maître Frédéric Kwamba, il est membre de la société civile et il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. Situation sécuritaire au Nord Kivu, des violents affrontements ont opposé les FRDC et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Les hostilités étaient signalées ce vendredi dans plusieurs zones des Massissi, précisément dans la région de Karubangungu, mais aussi dans le Rutshuru. Pendant que les rebelles continuent à occuper des localités et collines stratégiques, l'armée, pour sa part, poursuit ses bombardements dans la région occupée, rapportent plusieurs sources locales. Pendant ce temps, la société civile de la localité de Mamove, en territoire de Beni, a rapporté jeudi 1er février qu'au moins 23 personnes ont été tuées en l'espace de 4 jours dans différentes attaques attribuées aux rebelles des EDF dans le groupement des Babila Bakaiko. Les présidents de la société citoyenne, Kinos Katuo, a dénoncé la recrudescence depuis quelques jours des attaques des EDF. Il a aussi déploré le fait que les alertes sécuritaires des habitants ne soient pas toujours prises en compte par les forces armées de la République démocratique du Congo. John Kanyunyu, vous avez souhaité nous parler de la guerre du M23 avec les multiples partenaires du gouvernement, mais sans résultat aucun, mais aussi les retours en force des EDF à Beni et à Ituri. On vous écoute.
Oui, Guy, dans les environs de Goma, avec ces affrontements qui ont lieu dans les territoires des Massissi, ce qui est inquiétant, c'est que tous les jours, on assiste à des bombardements des cibles des rebelles du M23. À l'époque, c'était Mweso. Même hier, nous avons appris qu'il y a eu des bombardements vers cette localité-là. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir ces bombardements continuer. Mais malgré cela, le M23 parle des avancées. Le M23 a dit avoir conquis certains villages. Et alors, on s'est dit, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe avec tous les partenaires du gouvernement? Là, nous parlons de la SADC qui est dans la danse, mais non, ce n'est plus à cacher. Et il y a aussi les Wazalendo, les Patriotes qui sont aux côtés des FARDC. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'il se pose un problème de stratégie? Est-ce qu'il se pose un problème de commandement? Ou est-ce qu'il se pose un problème de coordination de ces combats du côté des FARDC? Parce que on pouvait se dire, comme les FARDC sont seuls sur la ligne de front, peut-être que elles étaient dépassées, mais c'est quand même inquiétant de voir toute cette coalition semble ne pas résister ou semble peut-être une sorte de faiblesse face au M23. Bien sûr, certains compatriotes me diront que le M23 a le soutien du Rwanda, comme on l'a toujours surnommé, M23-RDF. Je me dis, de toutes les façons, nous avons une armée. La fois dernière, il y a eu des sorties des centres de formation de militaires, mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe au juste pour que nos vaillantes FARDC ne soient pas à mesure de contrer l'ennemi et de le ramener d'où il est venu? Alors, on se dit, est-ce que ce qui se passe actuellement sur terrain, on peut dire que le M23, entre parenthèses RDF, serait plus puissant que les forces coalisées? Voilà toutes ces questions-là dont la population se pose au niveau, que ce soit au niveau de Goma, que ce soit au niveau de Beni, même à Kinshasa, là où vous êtes maintenant. Je pense que au stade actuel, l'état-major général des FARDC doit se réunir pour voir au juste ce qui ne va pas, parce que ce que la population ne comprend pas, c'est que, bien sûr, il y a un coordonnateur des opérations à Goma, mais on ne voit pas une sorte d'engouement au niveau de l'état-major général à Kinshasa, parce que ça fait au moins 25 ans que je fais la couverture médiatique des affrontements ou des guerres dans cette partie du pays. En tout cas, ce que nous vivons aujourd'hui, on ne sait pas comprendre, parce que à l'époque, il suffisait qu'il y ait quelque chose d'incident au niveau des différents fronts. C'est le lendemain qu'on voyait soit un chef d'état-major général descendre soit sur Goma, descendre soit sur Beni, pour s'imprégner de la situation. Mais actuellement, c'est silence radio. On se dit, qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de Kinshasa, au niveau de l'état-major général? Comme si ces opérations, John, au niveau du coordonnateur Falsi Kabwe, John, et Kinshasa croisent les bras.
John, oui, vous avez aussi souhaité nous parler de ce que vous considérez comme étant un retour en force des EDF à Beni et à Ituri.
Oui, au niveau des Beni, ce que la population ne comprend plus, c'est le retour en force des ADF, parce que actuellement, ils se promènent comme si ils étaient sur un territoire conquis. La partie nord-ouest des Beni, notamment Samboko, Mamové, Mandumbi et ailleurs, en allant à Ituri, dans les territoires de Irumu, il y a les ADF qui massacrent la population comme si les opérations conjointes n'existaient plus. Je profite de cette occasion pour interpeller les commandants ou les coordonnateurs des opérations conjointes, donc l'armée congolaise et l'armée ougandaise, de se mettre au travail, parce que les vies humaines que nous sommes en train de perdre pouvaient être sauvées.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, en fait depuis plus de 2 semaines dans les Massissi et dans les Rutshuru, à quoi vous attribuez cette escalade de violence?
Moi, je pense que c'est comme toujours, cette guerre, il s'agit des éléments de la guerre que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'au début, quand la guerre a commencé, il y a eu des déclarations claires que c'était les Rwanda qui étaient derrière, c'était l'Ouganda, c'était le Burundi, mais cette manière de faire des déclarations n'a servi à rien. Cette manière n'a servi à rien jusqu'à ce jour. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de changer peut-être la manière d'agir. Parce que si nous suivons à travers l'histoire, trop peu de guerres ont apporté la paix. Trop peu seulement. La nôtre, elle a pris trop de temps. Moi, je pense que ça sera peut-être un moment où nous allons éviter trop de discours et passer aux actions. Et même quand il faudra passer aux actions, il ne faudra plus reprendre les mêmes actions comme départ le temps, ce qu'on a toujours fait. Cette fois-ci, il faudra passer peut-être par la voie d'une bonne diplomatie agissante dans le sens de tendre vers une paix. Parce que l'ennemi qui s'est caché hier, qui s'est caché il y a des années, aujourd'hui, l'ennemi est démasqué. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Rwandais peuvent faire face à la RDC dans une guerre directe, une guerre ouverte. Les Rwandais ne peuvent pas tenir dans une guerre pareille. Mais si il y a une situation, on reconnaît qu'il y a des Rwandais derrière, il y a les M23 et autres groupes armés, on ne parvient pas à agir. Donc, il y a d'autres éléments, peut-être, qui nous échappent, qui font que l'état-major général ou les hauts commandements de militaires n'agissent pas directement pour arriver à protéger cette population qui ne fait que diminuer en termes de nombre, parce que si nous comptons aujourd'hui le nombre de morts, c'est presque dans toute l'histoire des guerres, c'est la guerre la plus meurtrière. Donc, moi je pense que nous pouvons, en ce moment, comme je l'ai dit, réfléchir autrement, parce qu'il y a même, scientifiquement, on peut démontrer que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes moyens qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'avoir la même mise ou de gagner la guerre, et continuer à les utiliser et croire que cette fois-ci, ça va aller. Moi, je pense qu'il faut peut-être tout modifier, changer de plan, changer de méthodologie, changer d'approche, et engager plus, moi je souhaite que ça soit plus diplomatique que les armes sur terrain. Parfois, les dialogues, bien que la majorité des Congolais pensent que le dialogue ne produira rien parce qu'on a tenté, on a fait peut-être le dialogue a été entamé sur des bases non maîtrisées, mais il faut maintenant comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on est en difficulté. Et nous devons changer juste de méthodologie.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Une situation sécuritaire qui ne s'améliore pas, comme l'a dit Maître Frédéric Kouamba, et ne fait que n'est pas empiré. Et pour lui, il faut changer la manière d'agir. Et comment vous réagissez à cette proposition?
Le constat est effectivement assez terrible. Hein. Je rejoins mes confrères. La reprise là encore des violences a de quoi décourager. Et par ailleurs, on se demande quelles sont les solutions. Autre manière d'agir, sans nul doute. Mais alors, comment agir? Quelles peuvent être les autres solutions? Alors que depuis la reprise, notamment depuis l'offensive du M23 fin 2021, on a le sentiment qu'un certain nombre de choses ont été tentées, alors peut-être mal, peut-être de façon désordonnée, mais finalement des choses différentes. On a vu à un moment l'état de siège, bon, c'était pas terrible. La force de l'EAC qui finalement est repartie. Mais maintenant, comme vous le disiez, c'est la SADC qui rentre dans la danse. Et au milieu de tout ça, des violences qui globalement se poursuivent et des civils qui trinquent. Alors, je sais que du côté de l'exécutif congolais, il y a plusieurs lignes, une ligne qu'on pourrait considérer comme peut-être dure, et en tout cas, moi, la question que je me pose, c'est si celle de la négociation, de la discussion, peut être une ligne qui pourrait fonctionner, c'est-à-dire plutôt que simplement la solution militaire, qui ne semble pas être effective à l'heure qu'il est, l'accompagner de négociations politiques, alors que on avait vu là dans les dernières semaines de la campagne électorale en RDC le ton montait très très fortement entre Félix Tshisekedi qui s'était montré particulièrement virulent et Paul Kagame. Est-ce que une reprise des discussions, même de façon informelle, même par des émissaires, pourrait être une voie? C'est une question qu'on peut poser.
Oui, vous avez suivi la position du chef de l'État récemment lorsqu'il avait reçu les corps diplomatiques. Il a dit qu'il n'y aura pas de négociations, il n'y aura pas de pourparlers ou de discussions avec le Rwanda aussi longtemps que son armée sera sur le territoire congolais.
C'est vrai, mais vous le savez, Guy aussi, on dit rarement, hein, quand il y a des discussions et des négociations, c'est sans doute souvent, enfin, c'est souvent la seule voie pour qu'elles puissent éventuellement parvenir, c'est aussi la discrétion. Je veux dire, dans d'autres conflits de par le monde, là, il y a eu par exemple des changements de position dans le conflit entre Israël et Gaza, hein, si on prend une situation très différente et loin de la RDC. Il y a quand même une trêve, et alors que, évidemment, le gouvernement israélien est globalement sur une ligne très dure. Mais des discussions, des négociations, il y en a souvent, de façon souterraine, et cela au-delà des déclarations politiques qui parfois ont pour but, quoi, de rassurer un électorat ou d'être un petit peu populaire. Mais au bout d'un moment, que peut-on faire quand la solution militaire ne fonctionne pas? Bon, peut-être que le dialogue, un certain dialogue, certaines négociations peuvent peut-être être tentées.
Merci, on espère que tout cela finira un jour et qu'on oubliera. Et on va écouter Qui sera, interprété par Mike Trent, et on revient juste après.
Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je me serais triste. J'aimerais bien beaucoup un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question.
C'était Qui sera de Moshe Brand, dit Mike Brandt, né le 1er février 1947 à Nicosie en Grèce et mort le 25 avril 1975 à Paris en France. C'est un chanteur et compositeur israélien. C'est en France qu'il rencontre les succès au début des années 70 avant sa mort prématurée à l'âge de 28 ans. Paix à son âme. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Canunu, journaliste et il est correspondant de La Voix de l'Allemagne de Tuvelle, au Nord Kivu. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. L'inspecteur général des finances de la RDC salue la renégociation du contrat chinois qui est passé de 3 à 7 milliards de dollars américains avec le projet Sicomine. Invité des Radio Capi dès mardi, le chef de service de cet établissement public, Gilles Alinguete, indique que sur les volets infrastructures, la RDC a arraché au moins 4 milliards de plus dans ses projets. Cette année, nous pourrons avoir près de 650 000 km de routes à faire avec le projet Sicomine, assure-t-il. Le gouvernement congolais avait manifesté sa volonté volonté de rééquilibrer les contrats chinois signés en 2008 par Kinshasa et un groupe d'entreprises chinoises ayant abouti à la création de la Sicomine. La RDC devait mettre à disposition ses ressources naturelles contre la construction des infrastructures. D'après les rapports de l'IGF, les minerais extraits du sous-sol peuvent être estimés à 10 milliards alors que les infrastructures construites par la Chine ne dépassaient pas les 800 millions de dollars. Pourtant, la convention entre la RDC et la Chine prévoyait que les entreprises chinoises investissent 3,2 milliards de dollars dans une mine de cuivre et cobalt et 3 milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures financées par les revenus de la mine. Mais les volets mines semblent avoir pris le dessus à en croire les conclusions du rapport de l'IGF qui jugeait les taux de réalisation des infrastructures très faibles. 15 ans après, des enquêtes de l'Inspection générale des finances ont révélé que ces contrats étaient déséquilibrés et ne profitaient pas aux Congolais. Madame Anna Sylvestre, vous avez choisi ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Eh bien, d'abord parce que ce contrat qu'on surnomme le contrat du siècle me semble être un serpent de mer. Ça fait tellement d'années qu'on en parle, tellement d'années aussi qu'il est controversé. Et je trouve que cette renégociation illustre assez bien le déséquilibre qui est à court entre la RDC et la Chine, mais plus généralement entre la Chine et l'ensemble du continent africain, et qui risque de s'aggraver. Vous l'avez dit, le gouvernement congolais s'est plutôt félicité. Hein. Vous avez rappelé avec tous les chiffres que vous venez de citer, effectivement, les déséquilibres et les rapports de force. Le gouvernement congolais s'est plutôt félicité de cette renégociation. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, la partie congolaise partait à ces négociations en exigeant 20 milliards de dollars et non les 7 obtenus. Alors certes, c'est mieux que 3, mais 7, c'est quand même moins que 20. Et comme vous l'avez également dit, Guy, jusque-là, semble-t-il, les promesses qu'avait fait la Chine n'ont pas été exécutées et la RDC s'en trouve bien mal lotie. Je crois que c'est assez... Ça illustre assez bien ce qui se passe en ce moment. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui un changement géopolitique majeur. La Chine investit, prête beaucoup moins à l'Afrique qu'il y a quelques années. Quand vous regardez le montant des 20 investissements chinois en 2015, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 8-9 ans, et ceux d'aujourd'hui, ils ont été drastiquement réduits. Et ça s'explique essentiellement par le fait que la Chine traverse elle-même une période économique compliquée en interne et qu'elle ne peut plus, elle ne veut plus en tout cas faire face à un certain nombre de pays, notamment en Afrique, qui n'honoraient pas leur remboursement. Donc la Chine investit beaucoup moins, elle est moins présente, même si elle continue à avoir besoin du continent et notamment de la RDC pour ses matières premières qui lui sont vitales. Mais le problème, c'est que ce manque d'investissement dans les prochaines années va se faire énormément sans doute ressentir en Afrique, en RDC et ailleurs, alors que l'Afrique pèse pour très très peu finalement dans le commerce chinois, environ 1 à 2%. Et je pense que le gouvernement congolais, comme les gouvernements de la sous-région, ou même au sens le plus large, les gouvernements du continent, doivent réfléchir à ce rapport de force qui leur est extrêmement défavorable et qui, à mon avis, quelles que soient les négociations, on peut être content de 3 à 7 milliards, c'est un peu mieux, certes, mais en réalité, le rapport de force est extrêmement défavorable et cela devrait inquiéter les autorités congolaises.
Oui, ce contrat a été qualifié de léonin. On peut espérer que lors de sa renégociation, la RDC a tiré les leçons du passé, Madame Anna Sylvestre.
Bah, moi, je pense pas tout à fait qu'elle ait tiré les leçons du passé. On le verra, hein, comme c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les députés. Jugeons sur pièce. Est-ce que là, dans les prochaines années, enfin, les infrastructures promises vont être construites? On le verra. Je veux dire, vous disiez que, par exemple, la RDC n'a bénéficié depuis 15 ans que de 822 millions de dollars d'infrastructures contre plus de 10 milliards de dollars dont a bénéficié la Chine en exploitant les minerais. 822 contre 10 milliards et encore sur les 822, en fait, certains documents considèrent qu'il y a eu d'énormes surfacturations. Donc en fait, on serait peut-être à 400, 500 millions simplement face à 10 milliards de dollars. Ça vous donne une idée du déséquilibre. Alors est-ce que cela va se poursuivre comme ça? Est-ce que la RDC a les moyens de faire pression sur la Chine pour qu'elle honore ses promesses? On va le voir, mais j'ai tendance à penser qu'on peut un petit peu en douter.
Merci, John Okanyunyu. Ce contrat a été renégocié pendant que la partie chinoise continue d'exploiter les cobalt de la RDC. Même si on a obtenu la renégociation de ce contrat, est-ce qu'on peut un jour obtenir la contrepartie, n'est-ce pas, de cette exploitation du cobalt à travers la construction des infrastructures? John Okanyunyu?
Oui, Guy, je suis aussi pessimiste comme Madame Sylvestre. Je me dis, on a renégocié ces contrats-là. Vous avez parlé des 800 quelque chose des millions sur les milliards qu'on devait, qui devaient nous construire des infrastructures. Et jusque-là, rien n'est palpable sur le terrain. Et ce que moi je crains pour mon pays, c'est que nous parlons beaucoup et nous agissons moins. Il y a trop de bruit alors que concrètement, il n'y a rien. Je crains que cette renégociation ou cet acquis de 7 milliards pour la partie congolaise ne soit qu'une chanson. Comme l'a dit Madame Sylvestre, donnons-leur les yeux et après on jugera. Mais en tout cas, je suis pessimiste. Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose par rapport à ce qui a été renégocié. Bon, espérons qu'il y aurait quand même des gens de bonne foi pour concrétiser ou matérialiser ce que l'on veut. Mais avec l'expérience que nous avons avec les hommes politiques de ces pays qui visent souvent leurs intérêts égoïstes, en tout cas, je ne pense pas que ces 7 milliards-là vont profiter à la population qui a besoin d'abord de la sécurité, mais en plus des infrastructures pour écouler les produits de leurs champs et autres. Donc, bref, nous leur donnons les yeux et on jugera.
Merci, Maître Frédéric Kouamba. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Maître Mathé.
Voilà. Qu'est-ce doit faire la RDC dans l'avenir pour ne plus brader, n'est-ce pas, son patrimoine à travers certains contrats?
Oui, c'est le sérieux, Maître Mathé. Ce qui manque à la plupart d'entre nous lorsqu'il s'agit de négocier des contrats, c'est le sérieux. Parce qu'on entend souvent le terme contrat léonais, contrat léonais. À quel moment un contrat devient léonais? Est-ce que c'est lorsqu'on l'a déjà conclu ou bien c'est bien avant qu'on comprenne qu'il s'agit d'un contrat léonais? Et ces débats arrivent souvent lorsque certaines personnes ne sont pas satisfaites par rapport à leurs intérêts qu'elles qualifient un contrat de léonais. Moi, je pense que nous devons avoir un système où tout est contrôlé. Parce que certains contrats se négocient dans les dos de ceux-là qui doivent le vérifier. Et c'est pas surprise que même les contrats qui doivent passer par le Parlement, qui doivent passer par un contrôle sérieux, arrivent par surprise et on se rend compte qu'il y a eu un contrat qui a été conclu. Donc l'unique terme qu'on peut utiliser, c'est le sérieux. Et puis en rapport avec l'IGF, moi je pense que l'IGF est aussi un peu limité. Hein. Il est limité parce que parfois, les gens pensent que l'IGF, c'est une très grande autorité. Merci le plan de texte. L'IGF n'est pas une grande autorité. L'IGF a le statut d'un officier de police judiciaire. Et quand je dis ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il peut faire du bruit à la radio, à la télé, et faire des communiqués, et faire des promesses, comme quand il parle des problèmes de route, mais il n'est pas décideur. Donc, tout le travail que l'IGF abat, tout ce que l'IGF fait, même quand il va attraper des détournements, il ne lui revient pas à lui de prendre une seule petite décision. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand il dit que les 7 milliards obtenus vont servir à construire des routes, mais les autres peuvent croire que c'est une vérité. Mais pour nous qui connaissons comment les choses se passent, on se dit que c'est juste une volonté de l'IGF qui n'est pas la décision, parce que l'IGF ne peut pas prendre des décisions en cette matière. Donc, il peut bien faire son travail, mais rester plus là où la loi veut qu'il soit, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelqu'un qui fait trop de bruit, qui parle trop et qui donne sa position avant que les autorités qui les gèrent, sous lesquelles ils travaillent, ne décident. C'est-à-dire que les gens sont déçus et vous entendez que dans l'opinion publique, on vous dit par exemple que non, depuis que l'IGF parle, on n'a pas vu les tourneurs arrêtés, on n'a pas vu l'argent retourner dans les trésors publics, on n'a pas vu ceci ou cela. C'est-à-dire que nous devons attendre que ceux-là qui gèrent les autorités de l'IGF, on connaît le parquet général qui a aussi les pouvoirs de l'IGF d'agir. Nous devons attendre aussi le pouvoir public au niveau de la présidence de la République prendre des initiatives et des décisions, c'est là que nous comprendrons que l'argent servira. Parce que parler de l'argent sur papier ou tel que nous attendons dans les informations, pour nous, nous en avons entendu plus que ça, mais quel est l'impact de cet argent récupéré sur les vécus quotidiens des Congolais? C'est ça la question la plus importante.
Merci, c'est par là que nous finissons l'émission. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Anna Silvestre, Monsieur John Kanyunyu et Maître Frédéric Kwamba. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lumumba, DJ Daddy, d'Hervé Voka et de Dieudonné Nyangasa, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec méditation de Roxy Chimpaka qui a fêté son 71e anniversaire le 24 janvier dernier. Ce virtuose de la guitare avait composé cette chanson en 1989 dans l'orchestre Shockstar. Et on se retrouve le samedi prochain.
Soki mamoni elelo, mitema na bango.